Les secours ont été envoyés, j'ai pu donner l'alerte et pourtant je n'avais pas de réseau, je ne captais le signal d'aucun opérateur. Le SOS d'urgence par satellite est opérationnel en France avec n'importe quel modèle de la gamme iPhone 14. Depuis ce mardi, j'ai pu le tester en conditions réelles, au milieu des bois, en région parisienne, sur proposition d'Apple. Dans un instant, mon bilan et toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur son utilisation et la période de gratuité. Quand l'idée américaine du bootcamp donne en France une école de code inclusive dont les formations sont intégralement prises en charge, ça donne Simplon qui affiche 10 ans plus tard 130 sites, 28 pays, 21 000 personnes formées, dont une partie avec le soutien financier, logistique et pédagogique d'Apple. Frédéric Bardot, le fondateur de Simplon, est notre invité. Il va nous raconter l'Apple Foundation Program et ses 3 cursus, et aussi la venue surprise annoncée à la dernière minute de Tim Cook chez Simplon à Montreuil en 2018. Les métamatériaux et les futurs Apple Glass, ce sera la mise au point très technologique cette semaine de Gilles Dounès. Et puis le bonus hebdo exclusif pour notre communauté Patreon sur patreon.com/iWeek. Cette semaine, peut-on encore commander sur le Refurb Store d'Apple les yeux fermés ? François va nous raconter sa mésaventure avec un MacBook Pro 14 pouces M1 Max 32Go commandé sur le magasin Apple de produits reconditionnés. Mardi 13 décembre 2022, on est à la veille de la demi-finale France-Maroc au Mondial de foot. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est le 116e numéro d'iWeek, la semaine Apple, le podcast indépendant de référence sur l'actualité de l'écosystème Apple. Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Je suis Benjamin Vincent et je suis très très heureux de vous retrouver avec un programme vraiment passionnant cette semaine. Bonjour les amis, bonjour à toi François Le Truédic.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver après une longue absence. Je pense que ça doit faire au moins 3 ou 4 semaines que je n'ai pas eu l'honneur de partager cette table virtuelle.
C'est vrai, tu es venu à bout de tes parpaings et de ton réseau domestique?
Oui, maintenant j'ai des belles prises Ethernet partout, il reste juste à espérer que la fibre optique finisse par... par être accordée, elle est juste en bas de la rue, là, elle est passe devant, il faut juste qu'il y ait un gentil monsieur qui se décide à venir m'installer ça, mais je désespère pas que ça arrive à un moment ou à un autre pour avoir une meilleure qualité et avoir une synchronisation au top entre la voix et l'image.
Bon, j'espère que ce sera ton cadeau de Noël, une bonne fibre, hein, c'est pour bientôt. Dans 10 jours. Je rappelle que tu es formateur et enseignant, François. C'est dire si je pense que tu vas avoir plaisir à découvrir notre invité dans un instant. Salut Gilles Dounès.
Salut Benjamin Vincent.
Comment ça va Gilles? D'abord, je le dis pour ceux qui n'ont pas l'image, tu es beau comme un camion. Et puis, tu égrènes ton nouveau micro dans la semaine Apple.
Oui, avec un bras magnifique qui a un micro au bout qui sert de contrepoids. Et après pas mal de tergiversations, comme on dit, j'ai réussi à installer ce truc-là.
Donc,
et
en
il
tout
fonctionne
cas,
très très bien.
Formidable, le son est nickel. Et je rappelle pour ceux qui l'ont oublié que tu es l'ex-rédacteur en chef de MacPlus.net et on te doit aussi iPod Backstage. L'un des livres de référence sur l'histoire de l'iPod, c'était chez Duno. Salut Fabrice Neumann.
Salut mon capitaine, salut à toutes et à tous.
Non,
moi je suis content
d'être
là aussi, j'ai pas raté d'autres émissions, mais je suis content d'être là quand même.
Bah écoute, on est content de t'avoir avec nous, t'es prêt pour Noël toi dis donc?
Et oui, pour les auditeurs qui ont la chance d'avoir la couleur, j'ai mon petit sapin, mes petites guirlandes... Mes camarades trouvent que ça me donne des cornes, bah tant pis pour eux, moi je trouve ça festif.
Tu es très clignotant, c'est magnifique, cette saison. Bon, moi je suis très très heureux de vous retrouver et de vous présenter le fondateur de cette école assez unique, école d'ailleurs qui se présente aussi comme une entreprise sociale. Cette école c'est Simplon et lui c'est Frédéric Bardot. Bonjour Frédéric et bienvenue dans iWeek, la semaine Apple.
Bah, merci de me recevoir, bonjour à toutes et à tous. Je suis super content d'être là.
Top que tu sois là, parce qu'on a eu un petit peu de mal. Hein
Oui, ouais, oui.
Hein, à vous.
Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je suis content d'être là.
Bon, on va dire que tu as eu un automne particulièrement chargé avec plein d'annonces, plein de partenariats. Ça avait commencé avec Apple et on va y revenir avec toi dans quelques instants. Alors, pour ne rien rater de l'actu dans l'univers Apple, justement au sens très large, on vous invite tous à suivre la quotidienne iWeek. C'est le podcast quotidien compagnon inséparable de la semaine Apple, 5 à 10 minutes par jour du lundi au vendredi avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures à deux voix. Podcast qui fête cette semaine son 300e épisode. Quand même, je pense que ça mérite des applaudissements, n'est-ce pas?
Absolument. Bravo, nous.
Bon, la quotidienne iWeek, c'est aussi un podcast gratuit, comme la semaine Apple, et vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Deezer, Amazon, et bien sûr Apple Podcast. Merci pour vos notes 5 étoiles. Merci aussi pour vos avis qui continuent d'éclairer celles et ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, je pense notamment à MLS93R qui a écrit il y a quelques heures sous le titre « Génial », j'ouvre les guillemets, « Podcast pertinent, équipe géniale ». Bon, là-dessus, je suis d'accord. Chaque semaine, on attend aussi la quotidienne et les dernières infos toutes fraîches. Un débat toujours intéressant, continuez comme ça. Bah, merci beaucoup à toi, MLS93R, et merci de ta fidélité. Et puis, juste avant lui ou elle, Broutelune avait écrit cet autre message, « L'actu Apple entre copains, un bien bon podcast, parfait pour suivre l'actu Apple avec une bonne ambiance, une bande de copains qui se font des blagues, bon, pas trop, hein, mais on garde le bon esprit, et ne se prennent pas trop au sérieux, parfait pour s'informer et se détendre dans les transports en commun en allant au boulot. » Bah, c'est vrai, et ça marche aussi en passant l'aspirateur ou en épluchant ses légumes. J'ai testé. Merci à vous toutes et tous, et faites comme eux en déposant votre avis sur Apple Podcasts pour donner envie à d'autres. C'est bien le but. Pour nous suivre, on vous conseille Twitter avec le hashtag iWeekLSA pour l'hebdo, iWeekLQI pour la quotidienne. Et puis, si vous voulez être les premiers à profiter de la version vidéo de ce podcast et les seuls à bénéficier de notre bonus hebdo, eh bien, rejoignez la communauté iWeek sur Patreon à l'adresse patreon.com/iWeek. À suivre, Simplon, une chance assez incroyable pour des reconversions qui semblaient improbables vers le développement d'app avec Swift. Mais tout de suite, on l'a testé en pleine forêt, le SOS d'urgence par satellite. Ça marche en France depuis mardi matin. L'info de la semaine est à la fois un test cette semaine, puisque mardi à 11h du matin, Apple a activé le SOS d'urgence par satellite dans 4 pays européens, dont la France. C'était prévu en décembre, on n'avait pas la date, c'était donc pour ce mardi. Et à l'invitation d'Apple, j'ai pu tester ce SOS d'urgence par satellite en conditions, on va dire, quasiment réelles. Alors, je vous explique un tout petit peu le décor. Jeudi de la semaine dernière, une grosse berline noire est venue me chercher en bas de chez moi, m'a emmené à Marly-le-Roi, à 45 minutes du centre de Paris, pour me déposer dans le parc de Marly-le-Roi en pleine nature, dans les bois, à un endroit où on capte très bien. Donc sur le coup, j'ai pas compris pourquoi on se retrouvait à Perpète-les-Ouilles alors qu'on capte très bien le réseau mobile. Et en fait, Apple m'a expliqué que c'était pour faire comme si on était dans le Jura, dans l'idée être dans un environnement où potentiellement on pourrait ne pas avoir de réseau alors qu'on en avait. Et donc, il m'explique qu'on va faire les tests sur des iPhone 14 sur lesquels Apple a désactivé le cellulaire à très bas niveau. Puisque vous savez que quand on désactive le cellulaire sur un iPhone normal, quand on compose le 112, l'iPhone réactive tout ce qui peut être réactivé pour que l'appel d'urgence par le réseau cellulaire soit passé. Donc voilà l'environnement. Je me retrouve donc sur un tapis de feuilles dans une sorte de grande clairière avec des arbres autour. Et le test va commencer donc comme si on était en haute montagne ou en pleine mer potentiellement, sans réseau mobile, avec typiquement quelqu'un qui s'est cassé la jambe ou qui est blessé. Donc on commence par appeler le 112, qui est donc le numéro de secours européen, qui peut passer par n'importe quel relais d'opérateur quand il y a du réseau. y compris un autre opérateur que le vôtre. C'est pas le cas puisque le cellulaire est désactivé à très bas niveau sur ces iPhones. Donc on a effectivement le message qui s'affiche, aucune connexion. Essayez d'envoyer un message d'urgence par satellite. Et en bas à droite, au bout de quelques secondes, en bas à droite de l'écran, il y a un bouton qui apparaît, un bouton qui ressemble à l'icône de message, mais celle-ci est surmontée d'une pastille rouge SOS. Et ce bouton porte la mention « Message d'urgence par satellite ». Alors, on va cliquer dessus, évidemment, et apparaît un premier écran qui dit ceci « Sortez pour établir une connexion puisqu'il faut un ciel dégagé ». Deuxième tiret « L'envoi des messages prendra plus de temps ». Troisième tiret « Répondez aux questions pour accélérer la prise en charge ». En bas, il y a un grand bouton « Signaler une urgence » sur lequel on clique. Démarre alors le questionnaire assez rapide. Il faut savoir que dans ces cas-là, on est en situation de stress, donc on ne va pas remplir un QCM de 40 pages. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Questionnaire qui a été mis au point par Apple avec des professionnels de la sécurité. Apple ne dit pas lesquels, mais en tout cas avec des pros de la sécurité. Alors on va répondre successivement à plusieurs questions et selon les choix qu'on fait, ça déclenche des questions complémentaires ou pas. Donc dans notre cas, on simule un blessé. Donc la première question qui est « Quelle est l'urgence ?» On a plusieurs choix possibles. Problème de voiture ou de véhicule, malaise ou blessure, infraction, perdu ou enfermé et incendie. Donc normalement, votre cas rentre dans l'un de ces cinq cas de figure ou situations. Donc comme on s'est tordu la cheville ou cassé une jambe, on va choisir malaise ou blessure. Deuxième question, à qui est-ce arrivé ? À moi, une autre personne ou à plusieurs personnes ? Donc je réponds à moi. Troisième écran, troisième question, comment respirez-vous ? Normalement ou avec difficulté ? Donc je vais répondre normalement. Et enfin, qu'est-ce qui décrit le mieux l'urgence ? Ben là, on a le choix, par exemple, entre douleur thoracique, AVC, noyade et quelques autres. On va choisir lésion traumatique, puisque c'est ce qui se rapproche le plus de notre situation. On a alors la possibilité de prévenir ou pas les contacts d'urgence enregistrés dans l'iPhone en tant que tel. Ça permet de rappeler l'importance d'en créer dans son iPhone. Si on décide de les prévenir, en fait, le système va leur envoyer la conversation avec les secours et notre position GPS. Donc, on choisit de prévenir nos contacts d'urgence et immédiatement, l'iPhone 14 affiche un écran qui permet en fait de se positionner par rapport au satellite. On va tourner sur soi-même de manière à faire face au satellite qui est quelque part dans le ciel. Et on va être aidé par un écran avec le logo du satellite dans un arc de cercle de bonne réception. S'il n'y est pas, il va falloir tourner sur sa gauche ou sur sa droite pour faire entrer le logo dans cet arc de cercle. Là, il y a une flèche à droite ou à gauche qui indique dans quel sens on doit tourner. Dans notre cas, il fallait qu'on se tourne légèrement sur la droite. Le logo du satellite va se déplacer à l'écran. Il va finir par entrer dans l'arc de cercle qui passe en vert. À partir de ce moment-là, la connexion se fait et l'iPhone nous demande de rester dans la direction du satellite. Alors, il faut savoir que les satellites se déplacent à 27 000 km/h. Ils sont à 1400 km d'altitude. Pour avoir une idée, c'est 3,5 fois plus haut que la Station Spatiale Internationale. L'intérêt, c'est que la zone que couvre chaque satellite est relativement vaste. Un satellite couvre une zone qui est plus grande que la France, sans trop de précision, mais en tout cas, c'est ce qu'Apple nous a dit. Et donc, chacun de ces satellites Global Star, il y en a 24, traverse le ciel en 15 minutes environ. Et donc, même si l'ensemble de la procédure se fait en quelques minutes, le satellite a largement le temps de passer de la droite à la gauche. Donc, on va devoir en fait tourner avec lui. Et la position qui apparaît à l'écran en temps réel va nous y aider. Alors la connexion s'est faite, l'iPhone va basculer dans messages, affiche les intitulés du rapport d'urgence pendant que l'envoi est en train de se faire. Une barre de progression indique où en est l'envoi à chaque instant. Et je constate au bout de quelques secondes que ma position a aussi été envoyée au secours, c'est mentionné à l'écran. Donc j'ai chronométré combien de temps tout ça prenait, 1 minute et 3 secondes après avoir demandé à prévenir les secours, ceux-ci me répondent pour la première fois par un message texte que j'ai aussi reçu via satellite. Ce message dit ceci: vous avez atteint le centre d'urgence, j'examine les informations que vous nous avez fournies, décrivez le lieu de l'urgence. Alors là, en fait, c'est pour aller au-delà des simples coordonnées GPS, latitude, longitude et altitude. Là, en quelques mots, il faut que ce soit le plus court possible, il faut décrire l'endroit où on se trouve. Est-ce que c'est une clairière comme dans mon cas? Est-ce que c'est au bord d'un lac, sur un bateau, au sommet d'une montagne? Dans notre cas, moi j'ai précisé à côté de l'étang sur la colline. On peut évidemment le dicter à l'iPhone si on ne peut pas le taper au clavier. Et les messages ont besoin d'être courts parce que, vous le savez, chaque octet compte, même si Apple utilise un nouvel algorithme qui réduit la taille des messages par 3. En 10 secondes, ce message apparaît comme envoyé et 30 secondes plus tard, le centre de relais nous écrit « J'appelle les services d'urgence maintenant, avez-vous des médicaments avec vous ?» Ça, c'est directement lié au type d'urgence qu'on a précisé. On est blessé, donc a-t-on des médicaments ? Je réponds non. Et 40 secondes plus tard, le centre de relais confirme avec ce message « Les secours ont été envoyés ». Voilà, le contact va rester établi tant que les secours ne seront pas sur place. On n'est pas allé jusqu'à l'arrivée des secours, évidemment, mais toute la procédure jusque-là était bien réelle. C'est bien le centre de relais Apple qui nous a répondu. Et c'est comme ça que ça se passe en conditions réelles. J'ai trouvé que c'était extrêmement simple, que c'était extrêmement rapide, que l'envoi, la réception marchait, ça prenait voilà, une quarantaine de secondes à chaque fois, donc je trouve ça très 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 raisonnable. Et puis il y a en permanence, en tout cas pour les zones en France concernées, il y a au minimum un ou deux satellites en permanence, parfois il y en a même trois. Donc les chances de pouvoir en capter un sont grandes et il y aura sans doute peu d'occasions où ça ne fonctionnera pas, à condition que le ciel soit quand même un peu dégagé, parce que vous savez que c'est aussi une des conditions. Par temps très couvert, forcément la connexion avec les satellites sera plus difficile, voire impossible.
Voilà, ça j'ai testé aussi en Bretagne du coup.
Ça marchera pas en Bretagne. Ça marchera en Bretagne, si. Avec un peu de cidre, je pense que ça marchera aussi pas mal en Bretagne. J'ai aussi testé l'application localisée pour partager ma position avec les proches avec qui je la partage déjà. Et donc là, dans une situation où j'ai pas de réseau cellulaire, donc on ouvre l'appli localisée, on clique sur moi en bas à droite, on scrolle vers le bas jusqu'à arriver à ma position par satellite et à cliquer sur « Envoyer ma position ». On va alors se connecter à nouveau au satellite de la même manière, en tournant sur soi-même pour se retrouver bien en face. Ça va prendre environ une minute. Et donc, les amis qui suivent notre position vont la recevoir sur leur appareil. Alors, on s'était posé la question quand la fonction avait été annoncée par Apple d'un engorgement à cause de gens qui passeraient leur temps à partager leur position, presque pour faire tomber le système aussi, si des petits malins voulaient jouer à ça. En fait, la fonction de partage de la position via satellite ne peut être utilisée qu'une fois toutes les 15 minutes. Il y a un timer, et donc ça devrait éviter les abus. Alors pour synthétiser et pour vous donner les dernières infos sur ce que j'ai appris, d'abord, les interlocuteurs du centre de relais ont été formés pendant plusieurs mois, c'est ce que dit Apple. Assez curieusement, il n'y a pas de système automatisé de connexion informatique poussée entre le centre de relais Apple et les services de secours. C'est le centre de relais Apple qui les prévient, mais pour les prévenir, il leur passe un coup de téléphone. Alors, c'est assez étonnant en 2022, mais pour l'instant, c'est comme ça. Apple
et si eux-mêmes eux-mêmes captent pas, ça se passe comment?
Apple a quand même bon espoir que ça évolue assez vite. On sait qu'Apple a investi 450 millions de dollars dans cette fonction. Apple s'appuie sur les 24 satellites Globalstar. L'un d'eux a été lancé l'été dernier à la demande d'Apple, sans qu'on sache précisément pourquoi. Apple a dû passer un certain nombre d'étapes réglementaires, notamment en France, pour pouvoir lancer ce service. Mais ils sont très discrets et ils ne veulent pas entrer dans le détail de ces questions qui sont à la limite des questions dérangeantes. Il reste deux inconnues sur lesquelles je n'ai pas pu avoir de réponse. La première, c'est est-ce qu'il y a un ou plusieurs centres de relais pour la France et les quatre pays européens ? On ne sait pas. Ils m'ont juste dit qu'il y avait, le nombre suffisant pour couvrir les quatre pays. Donc, est-ce que c'est un seul centre qui parle les différentes langues, qui est situé à un endroit en Europe ou ailleurs ? Ou est-ce qu'il y en a un par pays ou un par langue ? Je ne sais pas. Et puis, quels sont les prochains pays à ouvrir ? Quels sont les prochains pays à ouvrir ? Ça, évidemment, c'est mystère et boule de gomme pour l'instant. Ouais, Gilles ?
Étant donné que l'Irlande est couverte également, il ne fait pas partie des trois grands pays de l'Europe de l'Ouest, Western Europe, chez Apple, il y a de grandes chances que ça soit à Cork et que ça fasse partie du centre d'appel de l'Apple Care, que ça soit un spin-off.
Peut-être. J'ai aucune indication de ce côté-là. Donc voilà, sur ce test, je trouve que c'est extrêmement concluant. Maintenant, il faudrait avoir des retours de situations réelles qui ont existé. On a parlé dans la quotidienne du cas de cet homme en motoneige qui a été secouru grâce au premier SOS d'urgence par satellite. C'était en Alaska. Apple nous a aussi cité le cas d'un bateau en Floride avec 5 personnes à bord qui a pu être secouru par les gardes-côtes grâce à l'utilisation et l'activation de ce SOS. Et puis une personne encerclée par les flammes en Californie pendant un incendie il y a quelques jours a aussi pu être sauvée par le SOS d'urgence par satellite. Donc franchement, considérant la gratuité du service, en tout cas pendant les deux prochaines années, je vois aucune raison de ne pas mettre 5 sur 5 à ce test personnellement. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez.
J'avais une question complémentaire. Dans le test, tu as dit que tu avais simulé quelqu'un qui s'était tordu la cheville. Éventuellement, donc, ça peut être quelqu'un qui s'est aussi cassé une jambe, par exemple, qui donc ne pourrait pas bouger, en tout cas vraiment pas facilement. Et donc, dans le moment où, si, au moment où il faut pointer vers le satellite et on te demande de tourner sur toi-même, si tu peux pas, qu'est-ce qui se passe ?
C'est à la fois assez fin et assez grossier comme rotation. Donc, même en ne pouvant pas bouger, si déjà tu peux... Sachant qu'il y a en général au moins deux satellites, alors tu n'en vois qu'un à l'écran, mais moi par exemple, il était légèrement à droite, c'est-à-dire que il fallait même pas que je tourne, j'aurais simplement pu faire ça avec mon buste ou tendre le bras vers la droite et je captais, tu vois.
Donc il n'y a pas besoin de faire 2-3 mètres, ouais, c'est important.
Je suis vraiment resté sur place, c'est pas une question de déplacement au sol, c'est vraiment une question de rotation. Et de viser plus ou moins vers la gauche ou vers la droite. Ça ne demande pas à bouger, en fait. Tu n'as pas à bouger de l'endroit où tu es. Il faut juste pouvoir s'orienter.
Voilà. Non, c'est assez rassurant, parce que du coup, si on ne peut pas bouger, si on est coincé dans un truc, voilà.
Bon, si le satellite demande à viser derrière toi, là, il faudra faire un demi-tour sur soi-même, mais...
Éventuellement patienter un peu que le satellite bouge, justement.
Exactement.
Parce que là, ce que tu décris, en plus, c'est ultra rapide quand même. On parle de minutes, même pas au pluriel, quasiment.
Ah oui.
L'envoi, c'est une minute, on attend une autre minute. C'est quand même assez formidable. C'est formidable. T'as mentionné à la fin que c'était gratuit, donc ce sera gratuit pendant 2 ans. Dans la quotidienne, je sais plus lequel d'entre vous l'a signifié, que c'était 2 ans à partir du moment où c'était activé dans le pays considéré, et pas au moment de l'achat de l'iPhone ou en tout cas de la sortie de l'iPhone 14 plutôt. Tant que c'est gratuit, c'est super.
Alors, ils ont précisé aussi la période de gratuité. En fait, elle commence à la fois à partir du moment où le service est actif dans le pays et de la date d'activation de l'iPhone 14. Ça veut dire que tous ceux qui ont acheté un iPhone 14 avant aujourd'hui bénéficient de 2 ans à partir d'aujourd'hui. Donc jusqu'au 12 décembre 2024. Mmh. Ceux qui achèteraient par exemple un iPhone 14 l'été prochain, donc à l'été 2023, auront 2 ans à partir de leur achat, donc jusqu'à l'été 2025. Mmh. Donc en réalité, ça s'étendra sur une période plus longue que 2 ans stricto sensu.
Que 2 ans, oui. Mmh. Voilà.
C'est l'équivalent des abonnements gratuits, la période d'essai quand tu achètes un nouvel appareil et que tu as Apple TV Plus, par exemple, pendant 3 mois.
C'est ça. Mais par exemple,
3 mois seulement, Apple TV Plus.
Non, mais on verra, par exemple, en septembre, ceux qui achèteront l'iPhone 15, peut-être qu'ils devront passer à la caisse directement. Enfin, Apple n'en a absolument pas parlé, mais voilà, ça vaut pour toute la vie de l'iPhone 14, tant qu'il est commercialisé. Si vous l'achetez le dernier jour de sa commercialisation, vous aurez 2 ans à partir de ce jour-là. 2 ans gratuits. Ouais, François ?
Ouais, moi j'ai deux réflexions. La première, ça paraît très logique que ça puisse être intégré dans Apple One, par exemple. Je pense que si on a l'abonnement global à tous les services d'Apple, ça pourrait paraître logique que ce soit implémenté là-dedans. Et moi, l'autre question, c'est comment est-ce que la vérification de la validité d'un abonnement peut se faire à partir du moment où il n'y a aucune connexion cellulaire. C'est dans l'iPhone en lui-même que la fonctionnalité sera bloquée si on n'a pas payé. Enfin, moi, je trouve que ça... Je l'avais dit à l'époque où la fonctionnalité a été annoncée. Je trouve que ça a un côté aberrant de se dire qu'il y a un moment, en fait, pour sauver la vie, il faudra payer, quoi. Et on arrive à un système à 2 vitesses, et je trouve ça un peu...
En fait, ils n'ont pas dit non plus que ça ne resterait pas gratuit. Ils ont juste dit que pour l'instant, c'est 2 ans... Il n'y a que Apple qui sait, et peut-être même pas encore.
J'ose espérer, et puis je pense qu'aussi ils ont peut-être annoncé cette gratuité pendant 2 ans pour voir quel coût ça allait pouvoir avoir et si ça allait vraiment être utilisé par beaucoup de gens et ça allait représenter un gros budget pour eux. Parce que ça, on ne peut pas le savoir, en fait.
Oui, Fabrice.
Ouais, tu sais, juste là-dessus, il y a des concurrents qui sont déjà annoncés aussi. Donc, s'il y a un marché qui s'encombre, si jamais il y a un prix, il risque d'être très bas, voire de rester gratuit pour rester aussi différenciant que possible. Et puis, pour une tentative de réponse à cette question-là, ça peut être aussi comme les vidéos qu'on télécharge pour pouvoir les regarder hors connexion sur Netflix ou Amazon Prime ou des trucs comme ça, où tu as 48 heures ou une semaine pour les regarder, quelque chose comme ça. Donc la date est marquée en dur. Donc dès qu'il y a dans l'appareil, dès qu'il y a une connexion possible, le service vérifie que tu es toujours abonné. Et puis ça, à ce moment-là, ça peut aussi te prévenir. Parce que c'est quand même très rare de ne pas avoir de connexion du tout pendant 15 jours, par exemple, sauf éventuellement si on part au pôle Nord. Mais à ce moment-là, si on part au pôle Nord, on prend un autre équipement, quoi. que simplement son iPhone. Donc je suis pas sûr en fait que ce soit un problème. C'est solvable relativement facilement tant qu'on reste dans nos contrées civilisées.
Absolument. Voilà pour ce test. J'espère que vous n'aurez pas trop besoin de solliciter cette fonction. En tout cas, c'est très rassurant de l'avoir à disposition. En cas de besoin exceptionnel. On marque une pause et on se retrouve dans une poignée de secondes avec notre invité Frédéric Bardot pour parler de Simplon, de cette école de code et pour faire la connaissance de plusieurs de ses élèves. À tout de suite. Et notre invité cette semaine, c'est donc Frédéric Bardot, le fondateur de l'école Simplon, école basée en région parisienne à Montreuil, mais qui a des antennes un peu partout en France et à l'étranger aussi. On va en parler avec toi, Fred. École qui prodigue 3 formations désormais en partenariat avec Apple, 3 formations gratuites. L'Apple Foundation Programme qui dure 4 semaines, l'Apple Foundation Programme Extended qui dure la même durée et l'Apple Foundation Programme Advanced qui s'étend quasiment sur 2 ans. Alors, tu vas pouvoir nous raconter, puis on va aussi entendre à la fois des formateurs et des apprenants, je crois que c'est le terme exact pour ceux qui sont à Simplon, dans quelques minutes. Mais d'abord, si on revient au point de départ de cette aventure, Fred, comment est-ce que ça a démarré déjà pour Simplon et quelle était l'idée ?
Bah, écoute, ça a démarré il y a 10 ans. On a fêté nos 10 ans en 2023, donc c'est un super anniversaire auquel on se prépare. J'ai pas vu le temps passer en 10 ans. Nous, on fait partie de la vague des bootcamps à la française. Donc, les bootcamps, c'est un concept qui est né aux États-Unis, hein, comme d'habitude et comme souvent, plutôt côte ouest et côte est. Il y en avait des deux côtés et c'était des formations accélérées pour devenir un professionnel de la tech. Plutôt intensif. Un bootcamp, c'est le truc des militaires. Hein. Normalement, on fait des pompes dans les bootcamps. Bon, là, on fait du code, c'est pas la même chose. Et c'était souvent assez cher dans le modèle américain. Et nous, on a eu une idée d'importer cette formation-là et de la rendre gratuite et inclusive. Et on s'est lancé en même temps que l'école 42, que peut-être les auditeurs connaissent.
Bien sûr, je crois que l'un des apprenants va y faire référence tout à l'heure. Comment ça peut être gratuit alors que la plupart des écoles sont payantes et sont chères?
Bah en tout cas, les apprenants ne sont pas le produit, parce que selon l'adage populaire, non, il faut toujours quelqu'un qui paye. Et là, c'est là où on se rend compte qu'on a vraiment de la chance en France. En France, c'est des gens comme Pôle emploi, comme les régions et comme l'État qui payent pour que les demandeurs d'emploi soient formés gratuitement à des super métiers. Donc voilà, ce n'est pas gratuit, c'est pris en charge en fait.
Alors, ça, c'est la partie simplon. Donc, c'est une histoire qui a démarré donc, il y a 10 ans, hein.
C'est ça. Et maintenant, 130 écoles, 28 pays, 21 000 personnes formées. C'est vraiment une belle aventure.
Incroyable. Mmh. Alors, il y a 5 ans, ça a été le début de ce partenariat avec Apple. On va revenir sur le détail des formations, sur les conditions pour y participer, sur les débouchés aussi. Mais avant ça, pour comprendre l'enjeu, alors pas seulement pour ceux qui apprennent à développer pour iPhone, iPad, Mac ou Apple Watch, pas seulement pour vous chez Simplon, mais aussi pour Apple. On va s'arrêter quelques minutes, Fred. On va revenir sur ce 24 septembre 2018.
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Qu'est-ce qui se passe quelques heures plus tôt et qu'est-ce que tu apprends en décrochant ton téléphone?
Ben, on discutait avec Apple du partenariat depuis des mois et des mois, parce que c'est des gens très perfectionnistes. Et donc, en fait, on a beaucoup, beaucoup discuté. Il fallait que tout soit parfait. Et on m'avait dit que pour l'inauguration, on aurait la chance d'avoir quelqu'un d'assez senior, exécutif au niveau Apple, qui viendrait ouvrir le partenariat et faire l'inauguration. Et quelques heures avant, la responsable des RP d'Apple au niveau européen m'appelle et me dit c'est Tim Cook qui lui-même va venir demain matin dans tes locaux.
Demain matin?
Oui, c'est ça, c'était quelques heures avant.
Il était quelle heure?
Ben, il était 22h et voilà, 12 heures après, à 8h du mat, il allait débarquer et elle me dit bon, il faudra bien tenir le timing hein, parce que juste après, il voit Emmanuel Macron. Donc voilà, on était juste le sans rendez-vous juste avant Emmanuel Macron, donc c'était assez ouf.
Et t'as réussi à dormir?
Oui, parce que je dors comme un sonneur quoi qu'il arrive, mais par contre les apprenants, les formateurs, j'avais pas le droit de leur dire, mais je leur avais quand même lâché que ça allait être du lourd, et eux je pense qu'ils ont passé une nuit un petit peu agitée.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu Tim Cook entrer dans tes locaux à Montreuil?
Moi en fait je vais directement voir la personne et puis j'avais envie qu'il comprenne ce qu'on fait avec son argent, avec lui, avec ses équipes. Et donc tout de suite, c'est pas que j'ai pas été impressionné, mais en fait c'est quelqu'un qui m'est vraiment super à l'aise. Il est arrivé pas comme s'il était chez lui, mais il s'est senti tout de suite dans son élément. Il a posé plein de questions, il avait envie de tout comprendre. Et donc il m'a mis vraiment super à l'aise. Donc en fait moi je suis rentré direct dans l'exercice, mais par contre les apprenants eux... ont voulu faire marcher la machine à selfie et eux, ils en menaient pas large.
Fabrice?
Ouais, j'ai regardé la vidéo et c'est une des choses en t'entendant parler, Fred, qui m'a frappé, c'est qu'il avait l'air effectivement extrêmement détendu. Ça se voit sur la vidéo, je trouve que c'est assez rare, c'est-à-dire que on le voit souvent, il est évidemment filmé tout le temps, il fait des selfies assez facilement avec les gens, etc. Mais d'un air un peu obligé. Et là, il est détendu, il a une tasse à la main, il discute. C'est un moment assez rare de le voir comme ça en vidéo, j'ai trouvé. En plus de le voir en costume, puisqu'il allait voir le président après, il est en costume, ce qui est rare aussi.
Oui, je crois qu'il se sentait chez lui. Je crois qu'il aime les programmes comme ça. C'est ce que m'a dit ses équipes. Et voilà. Et en plus, les apprenants, super à l'aise. Enfin, nos locaux, c'est vraiment des endroits hyper cool. Donc, je pense que il s'est senti dans son élément.
Ouais. Bon, alors, Tim Cook, à Montreuil, conquis par Simplon. C'était donc il y a un peu plus de 4 ans. Ben, on va l'écouter justement, les CEO d'Apple, dans tes murs, Fred. C'était sur la chaîne LCI Inno.
I like their commitment to education, their commitment to helping people, their commitment to providing people skills for this century. You know, they're very forward looking, and I love the fact that they're making themselves accessible to everyone. And so you don't have to come from the wealthiest family or to have gone to a top university. You can come from anywhere that you are. Everyone here is welcome. And I love their focus on diversity. 40% of their population is women, and traditionally coding is not attractive to a lot of women. And so I love the focus on the diversity.
Bon, bingo, hein? Bingo.
Ouais, ouais, c'était un super moment, hein. Je crois que j'ai jamais reçu autant de SMS de toute ma vie.
Tu m'étonnes. Alors,
tout le monde est dormi sur les iPhones, non, c'est ça?
Tous les apprenants me demandaient si on avait des plans pour avoir des réductions de matériel, et je crois qu'on l'a encore redemandé en comité de pilotage le mois dernier avec eux, et en fait ils disent juste que c'est différents services chez Apple qui ont du mal à se parler et tout ça, et que normalement ça pose pas de soucis, mais c'était une des premières questions qu'on m'a posées. Ouais.
Bah oui, bien sûr. Alors, on va entendre les apprenants, les étudiants, enfin, moi j'ai envie de les appeler les élèves, je sais pas, voilà. Il y a tous les âges, hein, mais ils sont quand même, voilà, ils sont quand même dans une formation à Simplon. Donc, c'est l'Apple Foundation Program Advanced, donc c'est le plus récent des programmes que vous avez mis en place, c'est ça, hein, Fred?
Ouais, complètement. Ouais, c'est celui avec de l'alternance, voilà, et qui dure sur presque, voilà, 21 mois.
Exactement. Alors, le premier témoignage qu'on va écouter, c'est un jeune homme d'origine iranienne. Il s'appelle Kayan. Et il a un parcours, vraiment, on peut dire, qui coche toutes les cases.
Il y a quelques années, j'étais en informatique et bon, l'université ne me convenait pas. Puis, je me suis mis à travailler. Et après la période Covid, j'ai découvert l'Apple Foundation Program, qui est une petite formation de 4 semaines qui permet de s'initier au code. Après ça, j'ai été à l'Apple Foundation Program Extended, donc c'est à peu près la même chose, mais on n'est plus débutant, on en apprend plus. Ensuite, bah, j'ai continué sur l'Apple Developer Academy qui se trouve à Naples. Cette fois-ci, c'est une année entière, on va faire plusieurs projets de quelques semaines. Donc ça reprend un peu l'Apple Foundation Program, mais on est plus libre, on a plus de design, plus de project management, de business, on a différents aspects. Et enfin, bah, là, j'ai découvert l'Advanced, qui est la première promo en France, qui permet de d'avoir un diplôme, pour le coup, en équivalent Bac plus 3-4, de concepteur-développeur d'applications mobiles en alternance sur 18 mois en entreprise. Donc, je suis là pour ça, hein, il faut que je boucle cette boucle.
Qu'est-ce que ça représente, cette opportunité que propose Simplon avec Apple d'acquérir ces compétences-là pour toi ?
Alors, c'est quelque chose que j'ai jamais eu l'occasion de faire avant. Si je compare à mon expérience que j'avais en université, qui me convenait pas du tout, on était assis, on apprenait un bouquin, et en fait, cette pédagogie-là me convenait pas du tout. À Simplon, on travaille en équipe, on a bien sûr des cours, on va bien sûr écouter, mais tout est actif, donc on va directement pratiquer tout ce qu'on voit. Il y a de la théorie, mais c'est directement appliqué, donc ça prend mieux, ça reste mieux en tête. Et surtout, tout est gratuit. Donc, il faut avoir le statut en recherche d'emploi, mais tout est gratuit. Donc, on vous fournit le matériel et on vous fournit tous les cours gratuitement dans ces conditions-là. Donc ça, c'est imbattable.
Comment ça se passe avec les autres étudiants? Je ne sais pas si on peut vous appeler comme ça, mais parce que vous venez tous d'horizons très différents, vous n'avez pas les mêmes âges. Comment la mayonnaise prend entre vous?
Bah justement, c'est là où c'est incroyable. On est tous différents et on a tous des talents différents, on va dire. Il y en a qui ont beaucoup de connaissances en différents langages, il y en a qui ont beaucoup de connaissances en visuel, en design, et il y en a qui ont juste de l'expérience dans autre chose. Et on en a aussi qui sortent juste du bac et qui n'ont aucune connaissance. Mais chacun, à sa manière, apporte son expérience et on peut tous s'aider dans ce sens-là. Donc c'est bien mieux que dans une classe, on va dire, avec tous ses copains, on va vouloir faire n'importe quoi. Là, on est bien, bien concentré et bien avec, on va dire, le foisonnement de tout le monde.
Donc tu en as encore pour presque un peu moins de 2 ans, un an et demi, un peu plus. Quelles sont les perspectives concrètes pour toi et pour ta promo quand vous aurez fini votre formation ici?
Alors c'est là où on a la différence avec l'Apple Foundation Program qui durait 4 semaines. C'était trop court pour pouvoir se dire on maîtrise un langage et on va pouvoir se faire embaucher derrière. Là aujourd'hui avec l'Advanced Apple Foundation Program, lorsqu'on est accepté dans l'alternance, déjà on a une chance que l'entreprise nous garde après la fin de l'alternance de 18 mois. Donc c'est ce qui est déjà incroyable. Mais à la fin de l'alternance, on a à la fois le diplôme et aussi l'expérience qu'on a eue dans l'entreprise. Et donc ça, aujourd'hui sur le marché du travail, dans le domaine technologique, quand on montre qu'on a le diplôme et l'expérience, on a, je sais pas, 99% de chances de se faire embaucher. Donc c'est... Voilà, c'est parfait, on va dire.
Et la valeur de ce que vous apprenez ici, vu par l'extérieur, le fait que ce soit Simplon, que Simplon soit en partenariat avec Apple, est-ce que ça vous rend davantage désirable pour les entreprises qui cherchent des développeurs?
Oui, sans aucun doute.
Mais vous le ressentez déjà alors que vous êtes encore en formation?
Pour l'instant, on n'a pas tellement de... Personne ne vient nous chercher, on a juste des étudiants. Mais on cherche des alternances. Et évidemment, quand on montre le nom de la formation qui s'appelle Apple Foundation Program, du côté Advanced, ça retient l'œil. Donc, comparé aux autres alternants qui sortent d'une école un peu, on va dire, basique ou qui ont juste des stages, etc., ça accroche mieux, oui. Sans aucun doute.
Bon, bah, bonne chance. Et on vous souhaite beaucoup de réussite, Kayan.
Merci beaucoup, Benjamin.
Ouais, sympa, Kayan. Intéressant, Fred, parce que en fait, on a besoin d'aucun niveau préalable pour entrer dans un de ces programmes de formation. On peut être nul en maths.
Ouais, c'est venez comme vous êtes. Ce qu'on peut pas, c'est ne pas être motivé et ne pas avoir super envie de tout donner pour maximiser cette formation dont on vient de dire qu'elle était gratuite, mais financée avec beaucoup de qualité pédagogique. Donc ouais, mais avec la motivation et puis il y a des sélections quand même. Mais c'est pas sur le niveau, sur les CV. On demande aux gens de mettre les mains dans le cambouis, de se renseigner sur Swift, ce que c'est qu'une app, comment ça se code. Et en fait, comme ça, on évalue la motivation et effectivement, c'est le seul sésame pour rentrer, c'est ça.
Ouais. Alors, on va écouter une formatrice qui bosse pour vous. Elle s'appelle Julie Colazos. Elle a commencé, elle, par une formation web. Elle est passée par l'Apple Foundation Program de 4 semaines. C'était juste l'initiation, c'était vraiment la version courte. Et puis après 6 mois à Lille, elle est devenue formatrice pour l'école Simplon à Montreuil dans le cadre du programme Advanced. Et justement, on va écouter Julie sur ce programme Advanced.
C'est une formation longue, donc qui se décompose avec 3 mois d'apprentissage en full-time. Et ensuite, 18 mois d'alternance. Voilà.
Donc, on est juste à côté de la salle de cours où vos étudiants, je ne sais pas comment on peut les appeler.
Étudiants apprenants, les devons.
Sont en train de travailler. On est au milieu de la 3e semaine, c'est ça?
Exactement, exactement. Et donc, en fait, c'est une formation qui va leur permettre, d'une part, d'être développeurs iOS. On focus sur le langage Swift et sur la partie Swift UI d'iOS. Mais également, ils apprennent à être full stack. Donc, ils apprennent également à construire du back-end, à mettre en place une base de données, à parler avec la base de données. Donc, ils apprennent aussi SQL, JavaScript. Et on va faire du back-end avec Node.js.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas.
Voilà. Donc, JavaScript, qui est à la base un langage de front. Donc,
front, c'est ce qu'on voit, nous, quand on est internaute ou utilisateur des apps.
Exactement. Et en fait, JavaScript va permettre de rendre les sites web dynamiques. Et donc, il faut apprendre JavaScript pour pouvoir pratiquer Node.js, puisque le JS de Node.js veut dire JavaScript. Et en fait, c'est une sorte de langage, on va dire, basé du coup sur JavaScript et qui permet de créer des serveurs, donc de pouvoir stocker nos données sur des serveurs pour pouvoir y accéder ensuite via la partie Swift UI du coup de l'application mobile qui va se connecter sur cette partie back-end et de cette base de données pour afficher les informations.
Donc ça, c'est l'objectif des 3 mois de cours.
Tout à fait.
Et au bout des 3 mois, qu'est-ce qui se passe?
Au bout des 3 mois, ils commencent leur alternance. Donc en entreprise, Ils cherchent des entreprises pour devenir du coup développeur iOS en priorité. Et ensuite, donc, on va avoir des semaines de cours. Donc, le rythme, c'est 3 semaines, 1 semaine, où on va focus sur des choses plus particulières. Donc, on va faire des semaines UIKit, par exemple, qui est l'autre framework iOS. On va faire des focus sur tout ce qui est testing aussi, puisque c'est très important quand on développe de tester ces fonctionnalités pour être sûr que tout va bien fonctionner pour notre utilisateur. Voilà, à peu près. Ils vont faire des semaines comme ça de focus.
Vous avez tous les types de profils dans votre promo?
Oui, c'est très varié. Déjà, au niveau âge, ça va de 21 ans à 50 ans. Donc, c'est très intéressant parce que c'est des gens, beaucoup, qui sont en reconversion professionnelle. Donc, ils viennent de tous les milieux. Donc, ils ont énormément de choses à apporter autre que du développement. Donc, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et en plus, le fait qu'il y ait différentes générations, ça amène aussi, ça aide les plus jeunes à devenir un peu plus matures, à grandir, à acquérir les soft skills, etc. Et inversement, pour les personnes un peu plus âgées, d'être un peu au courant des choses un peu plus « jeunes », comme on dit. Donc, c'est vraiment très, très cool. Et l'ambiance, elle est au top. Ils sont vraiment en entraide. Là, aujourd'hui, ils travaillent en groupe et tout se passe bien. Ils sont tout mignons.
Ils sont juste à côté de nous, hein.
Ouais.
Vous les surveillez en même temps que vous parlez.
Ouais, je regarde un peu, mais ouais, tout se passe bien. Et j'aime beaucoup cette notion d'entraide, en fait. C'est vraiment... c'est aussi une grosse valeur de Simplon, la solidarité, l'entraide et l'inclusivité. Et donc, oui, effectivement, on a tous les profils, tous les âges. Et c'est ça qui marche bien.
Quasiment autant de femmes que d'hommes, comme ça, à vue de nez?
Quasiment, ouais. On essaye. C'est aussi une volonté de Simplon et d'Apple aussi, hein, d'augmenter du coup la part des femmes dans la tech, puisque de nos jours, c'est toujours pas... je connais pas vraiment les ratios, mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Donc oui, on essaye de mettre en place ça pour leur donner de la légitimité aussi. Parce que souvent, elles ont peur. Elles ont peur de se lancer dans ce genre de métier, puisqu'il y a beaucoup d'hommes et elles ont peur de ne pas être légitimes, alors qu'au contraire, elles le sont.
Mais je vais vous dire, vous avez cité plein de noms qui peuvent être barbares pour des gens qui ne s'y connaissent pas. Ils sont tous experts et c'est tous des matheux dans la salle?
Non, du tout. Il n'y a pas besoin vraiment d'être matheux pour faire du développement informatique. En soi, c'est plus de la logique. Et chaque personne va avoir une logique différente. Et c'est ça aussi qui est incroyable dans le code, c'est qu'il n'y a pas une seule solution. Chacun peut avoir sa solution en fonction de sa façon de penser, en fonction de sa logique. Et ça arrive régulièrement quand on fait des exercices. On va avoir un apprenant qui va proposer sa solution et qui va montrer ce qu'il a fait. Et on va dire « Ah mais moi j'ai fait complètement différemment, mais au final le résultat il est le même. » Donc c'est ça qui est un peu magique aussi avec le code.
Frédéric Bardot, c'est magique le code? Mais ça l'est encore plus quand, entre ceux qui sont autour des tables dans les groupes, il y a cette entraide qui est une valeur forte pour vous.
Voilà, c'est la formatrice qui est magique et c'est les apprenants qui sont magiques. On le voit bien, on l'entend bien, quoi. C'est pas une histoire de code, hein. On voit bien que, en fait, c'est ce que disait Tim Cook. Le code, c'est un truc que tu donnes aux gens et ils inventent la vie qui va avec, ils font des apps qui leur ressemblent. Là, on le sent bien dans le témoignage, mais effectivement, ouais, c'est vraiment de la magie au quotidien, mais bon. T'as quelqu'un dans ton équipe qui est enseignant, donc qui sait très bien de quoi on parle. C'est vraiment une super matière, c'est hyper riche. Mais oui, c'est plus fort, le code. Ouais.
Ouais. François, ton avis d'enseignant sur l'esprit chez Simplon, c'est une école unique, différente? Comment tu dis?
C'est vrai que quand j'écoute la formatrice, quand j'écoute les élèves, on sent une volonté de construire ensemble. Et c'est vrai que voilà, moi, dans une moindre mesure, parce que c'est vrai que voilà, j'ai pas affaire complètement au même public. Sur le public d'adultes un peu plus, sur les formations que je fais à des adultes, tu te retrouves en fait avec des gens de 25-30 ans qui sont en réorientation, des futurs retraités et autres. Et je rejoins complètement cette idée que c'est ce que je dis à mes stagiaires, moi je les appelle mes stagiaires, mais l'idée c'est qu'on se construise quelque chose ensemble. On est là en tant que formateur pour passer un savoir, évidemment, pour les aiguiller, mais le but c'est qu'il y ait de l'interaction et de l'entraide. Et moi je trouve ça super sympa quand il y a un moment où en fait on balance une idée, on évoque une thématique, et après on les regarde échanger dessus et se donner des tuyaux, des astuces, etc. Et là je considère que le job il est fait. Nous on a une partie du savoir, mais il faut que les personnes soient acteurs et actrices aussi de la façon de passer ces éléments-là. Et on a l'avantage d'être sur des matières qui sont techniques. Enfin voilà, c'est de la photo, c'est voilà un peu de bureautique, de la vidéo, etc. Donc il y a de l'interaction. Et c'est vrai que souvent quand j'en discute avec mes collègues, sans vouloir les stigmatiser, qui sont maîtres de conférences, qui sont dans des amphithéâtres, juste à délivrer un discours assez assez formaté avec moins d'échanges, c'est vrai que c'est beaucoup moins interactif pour les étudiants. Et on sent aujourd'hui une vraie volonté de la part de nos jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, de partir sur l'alternance pour vraiment être les mains dans le cambouis et pas uniquement le excusez-moi de l'expression, le cul rivé sur une chaise et à attendre que le savoir soit passé, quoi. Il faut, aujourd'hui, il faut ça. Et c'est ça qui est intéressant dans cette école-là. Et surtout, l'esprit de solidarité, je sais que ça fait partie de ce qu'on va évoquer juste après, mais c'est pas trop la mentalité de toutes les écoles d'informatique en particulier, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui nous vendent des trucs qui sont, voilà, un carnet d'adresses, ou alors vraiment dans l'esprit guerrier, warrior. Je ne citerai pas à l'école, mais tout le monde aura bien compris de quoi je parle. Je pense qu'il faut vraiment qu'on parte sur quelque chose de solidaire, c'est beaucoup mieux, et tout le monde s'y retrouve. Et ça se ressent dans les discours qu'on vient d'entendre.
Fred, t'avais un peu 10 ans d'avance en pensant à Simplon en 2012 ?
Bah en fait, pas vraiment, parce que cette pédagogie-là, on la trouve dans plein d'autres organismes. J'ai envie de dire qu'elle a existé depuis qu'il y a des gens qui se transmettent du savoir, quoi. Je ne veux pas remonter chez les Grecs ou je ne sais pas quoi, mais on n'apprend jamais seul.
Tu peux.
Bah on peut alors, hein, donc on n'apprend jamais seul, on apprend en faisant. Et la solidarité d'un groupe, d'un collectif apprenant, c'est aussi important en termes de richesse pédagogique que la qualité du formateur. Et ça, on ne l'a pas inventé. C'est des choses qui existent depuis des millénaires. Par contre, c'est très très adapté pour monter en compétence sur la partie numérique, parce que comme ça bouge tout le temps, en fait, ce n'est pas le savoir du formateur qui est important, c'est la posture par rapport au savoir.
Alors, la place des femmes, c'est un élément aussi hyper important pour vous et pour Apple. On a dit 40%, mais je crois que c'est un pourcentage que vous essayez de faire grimper à 50%. Hein.
Ouais, on vise la parité depuis le premier jour à Simplon, et plus on semble de gens, moins on y arrive, parce qu'il n'y a pas assez de candidates. Donc, plus il y a de volume, moins c'est facile de trouver des candidates, parce que on peut... On va en reparler, mais il y a des problèmes à l'école primaire, au collège, au lycée. Maintenant qu'il y a une option maths, c'est une catastrophe. Toutes les filles se sont détournées de la partie maths. Et donc, en fait, c'est un peu cata. Donc, nous, on fait de la discrimination positive. Et effectivement, on va chercher les filles et on leur dit qu'elles sont les bienvenues dans la tech. Et pour Apple, c'est évidemment un objectif prioritaire, parce que heureusement que l'App Store et que le matos Apple, il n'est pas genré et il n'est pas facile pour les garçons. Et plus difficile pour les filles. Donc c'est, là-dessus, c'est un combat vraiment commun, quoi. Mais c'est un combat.
Alors, pour autant, c'est vrai que le code, ça peut être intimidant quand on n'y connaît rien. Il y en a une qui ne s'est pas posée de questions, hein, dans les apprenants actuels à l'Apple Foundation Programme Advanced. C'est Cynthia Fazaldine. Alors, elle code depuis la terminale. Elle a commencé, comme Julie d'ailleurs, par du développement web. Elle a entendu parler du programme chez Simplon. Elle a postulé pour la version longue. Et là, voilà partie pour 21 mois. Ça lui plaît, et ça lui plaît plus que l'école 42, notamment. On va l'écouter.
J'aime bien la méthodologie. Y a énormément de travail en groupe. On avance à notre rythme. Il force pas forcément les choses. C'est chacun travaille à son rythme. En suivant ses propres progrès.
Mais vous auriez pu aller à l'école 42, par exemple.
J'ai réalisé la piscine de 42, justement. Et le niveau n'est pas pareil, l'intensité n'est pas la même. Il faut davantage... J'aimais bien la méthodologie de 42, ça ne me dérangeait pas. Je savais m'adapter. Mais ce n'est pas du tout la même chose. En fait, comme la piscine, par exemple, on apprend uniquement du C, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc, c'est pas forcément vers là que je me suis tournée.
La validation d'Apple, qu'est-ce qu'elle change pour vous ?
Elle est reconnue par les entreprises. Donc c'est un avantage par rapport à d'autres formations.
Vous vous dites que ce que vous apprenez ici sera vraiment valorisé à la sortie ?
Oui, parce que rien qu'en discutant avec certaines entreprises, rien que le fait de dire que la formation est financée par Apple, ça a vraiment une plus-value.
Ça change un CV ?
Ça change pas forcément un CV parce que tout dépend de chacun ses compétences. Mais en réalité, oui, les entreprises, ça les intéresse.
Tu confirmes, Fred ? Les entreprises, ça les intéresse, la validation par Apple ?
Oui, oui, oui. Et puis en plus, c'est pas. Enfin, Apple ne fait pas que financer et donner des Macs, etc. En fait, il y a une équipe pédagogique de l'Apple Foundation Programme, de la Developer Academy. On a été très, très, très challengés sur la partie pédagogique. Et ce qui est drôle, que je raconte souvent, c'est que quand on a parlé de la pédagogie Simplon, ils se sont tous regardés. Ils ont dit, mais en fait, on a exactement la même. Ils ne l'appelaient pas pareil. Nous, c'était project-based pédagogie. Et eux, c'était challenge-based pédagogie. Mais c'était de la pédagogie active, de la mise en situation. Et en fait, on s'est retrouvés complètement sur la partie pédagogique. Donc, il ne faut pas du tout imaginer que c'est un coup de tampon avec des dollars qui arrivent et des Macintosh et des machins. Ils ont une approche pédagogique. Ils suivent la promo au jour le jour. Ils connaissent tous les apprenants. Ils viennent nous challenger dans le détail de toutes les formalités pédagogiques. C'est vraiment un investissement total dans ce programme-là. Et c'est un programme qu'ils maîtrisent du début à la fin, quoi. C'est pas une sous-traitance à un organisme de formation. Ce serait mal connaître Apple, hein. Ils aiment pas trop la sous-traitance en général. Mais en tout cas, ils aiment bien le contrôle et ils contrôlent vraiment la partie pédagogique. Ils ont des experts pédagogiques de Cupertino qui sont venus nous auditer, qui sélectionnent les formateurs. Enfin voilà, c'est vraiment un truc à quatre mains, quoi.
Et concrètement, l'apport d'Apple, c'est un apport financier au-delà du matériel ?
Oui, et ça, c'est très important parce que l'Apple Foundation Programme, les formations de 4 semaines, hein, pas la dernière formation, c'est 100% financé par Apple. Et ça, c'était leur volonté parce que en finançant 100%, ils ont le contrôle qualité total sur la formation. Et c'est vrai que si on avait imaginé des choses cofinancées avec les régions, Pôle emploi, bah en fait, ils n'auraient pas eu la main pour vraiment faire exactement ce qu'ils imaginaient. Et donc, voilà, ça a été un investissement financier au départ. Mais après, il serait effectivement bête de ne pas capitaliser sur les financements de la formation professionnelle en France. Et on les a convaincus, mais on a mis presque 4 ans à les convaincre d'aller sur des sujets comme ça parce qu'ils avaient peur de perdre la main sur la qualité. Et c'est une entreprise qui sait exactement où elle veut aller dans tout ce qu'elle fait, et notamment au niveau pédagogique. Et donc, voilà, elle ne voulait pas de dégradation de la qualité ou d'avoir un intervenant supplémentaire qui vienne parasiter la qualité pédagogique du modèle. Et donc, voilà, il a fallu les convaincre que ce ne serait pas le cas. Et c'est ce qu'on déroule maintenant avec Alternance.
Question de Fabrice Neumann.
Je me demandais si, à l'inverse, les autres partenaires comme Pôle emploi, par exemple, savoir que c'était une ou des formations entièrement payées par une entreprise privée, si ça avait posé problème pour la reconnaissance ou justement le fait que ça fasse partie d'un catalogue qu'ils pouvaient proposer.
C'est une super bonne question parce que c'est vrai que le Pôle emploi et puis les financeurs, ils aiment bien ce qu'ils appellent les formations agnostiques. Ça veut dire que c'est des formations qui ne sont pas liées à une entreprise, qui ne sont pas propriétaires, qui ne sont pas spécifiques. Mais la nature même de l'écosystème Apple et tous les emplois qui sont liés à l'App Store et le nombre de milliers de développeurs iOS qui manquent en France et dans le monde, en fait, ils ont compris tout de suite l'intérêt d'avoir quelque chose qui était financé par Apple, adoubé par Apple, et puis qui était spécifique à cet univers-là. Parce que c'est pas du tout que Apple n'a pas d'intérêt sur d'autres types de technologies, mais son écosystème est tellement cohérent qu'effectivement, une formation qui ferait un petit peu de Apple, et puis un petit peu d'Android, et puis un petit peu de machin, en fait, elle serait beaucoup moins puissante en termes d'employabilité. Donc, Pôle emploi, si je n'ai pas trompé, pour un chômeur, faire cette formation-là, c'est plutôt un bon sésame pour aller trouver du taf. Ouais.
Tu disais que Apple finançait 100% de la formation de 4 semaines. C'est pas le cas de la formation longue ?
La formation longue, elle finance une partie d'ingénierie pédagogique, elle finance le matériel, mais en revanche, l'alternance, c'est une modalité qui est financée par l'entreprise qui embauche l'alternant et aussi par des financeurs de la formation qui s'appellent des OPCO. Parfois, il y a des financements aussi de Pôle emploi, donc on rentre un peu dans la technique, mais la formation professionnelle, c'est quelque chose qui est régulé en France et qui est financé par le public et qui est même paritaire avec les branches, les syndicats, etc. Donc c'est des trucs très très sérieux, c'est beaucoup d'argent. Et donc ce format-là d'alternance, effectivement, il est, voilà, il est cofinancé.
D'accord. Alors, on parlait de reconversion tout à l'heure. Je vais vous présenter un apprenant qui a un parcours étonnant, qui montre qu'on peut à la fois avoir fait l'armée, avoir ouvert un resto et devenir développeur. Il s'appelle Esteban Semelier et on l'écoute.
J'ai fait différents métiers dans ma vie. J'ai commencé par mécanicien avion. Donc, je travaillais sur la structure des avions. Par la suite, je me suis engagé dans l'armée pendant 5 ans. Donc, je suis parti, j'ai fait différentes missions. Après ces 5 ans, donc, j'ai voulu retourner un petit peu à la vie civile. Et ça a été un peu compliqué parce que quand on sort de l'armée, il n'y a pas beaucoup de qualifications qui se retrouvent dans la vie civile. Donc, j'ai fait du service dans un restaurant. J'ai eu l'occasion d'ouvrir mon restaurant. Donc, ça, c'était pas mal. Par la suite, je travaille. Comme c'était assez compliqué, c'était beaucoup de travail. On a rendu le restaurant et j'ai travaillé en tant que barman pendant quelques années. Après ça, donc j'ai décidé de reprendre un peu des horaires normaux, j'ai envie de dire, et j'ai commencé à travailler dans un foyer pour personnes en situation de handicap. À partir de ça, vraiment, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je fasse quelque chose d'important, d'utile. Ce qui était déjà le cas, mais je voulais changer, avoir une vie plus stable, avoir quelque chose de plus cadré, j'ai envie de dire. Et je connaissais déjà un petit peu la programmation parce que j'avais déjà touché plus ou moins, j'avais une logique qui était assez développée quelque part. Donc je me suis engagé directement dans la programmation, je savais que c'était ce que je voulais faire, j'avais une logique informatique qui était plutôt aisée, je dirais. Et donc, j'ai commencé à chercher les différentes formations dans le domaine. Au début, je m'étais engagé sur une formation, enfin, je m'étais inscrit chez Simplon pour faire une formation de développement web. Sauf qu'on m'a proposé la formation Apple à ce moment-là qui était plus tôt, qui arrivait plus tôt. Donc, je me suis engagé sur cette formation et ça a coulé de source. Ça a coulé de source, donc j'ai continué et j'ai fait AFP, l'Apple Foundation Programme, l'Extended. Et me voilà à l'Advance aujourd'hui. Et voilà.
Est-ce que tu as le sentiment d'être sur des rails ?
J'ai complètement le sentiment d'être sur des rails. J'ai suivi un cursus qui est assez linéaire. J'ai un peu dérivé. J'ai fait une deuxième formation en Java au mois de décembre, pour le coup. Ce qui complète un peu le tout, j'ai envie de dire, pour faire du cross-platform après. Et c'est vrai que oui, actuellement, j'ai bien l'impression d'être sur des rails et d'être bien suivi en plus. D'être bien suivi pour ces formations, on a reçu beaucoup de mails, on a été très très contactés pour ces formations puisque c'est des formations où on n'a pas beaucoup de temps au niveau de l'inscription, fallait vraiment s'inscrire assez rapidement, il y avait beaucoup de monde qui voulait cette formation, donc c'est vrai que ça a été bien suivi, entre les trois formations il y a une vraie continuité. Donc on évolue à chaque formation.
La validation par Apple, quelle importance elle a pour toi ?
Apple, c'est un très grand groupe. Donc c'est comme quand on fait de l'Android, la validation par Google, j'ai envie de dire, c'est très important. Étant donné que c'est un très grand groupe, c'est reconnu par énormément de monde. Et à partir du moment où on a cette qualification-là et cette validation-là, je pense qu'on peut trouver du travail dans à peu près n'importe quelle entreprise, je pense.
François, tu avais une question à poser à Frédéric.
Alors, c'est pas une question, c'est plus une réflexion, parce que c'est intéressant, je trouve. On sent vraiment qu'il y a une volonté de la part, on l'entend de la part d'Apple, mais aussi de la part de... C'est pas toujours très bien fait, hélas, mais de la part du ministère de l'Éducation, d'implémenter du code dès l'école primaire. Moi j'ai un neveu là qui est au collège, il est en train de travailler sur le PICS en technologie. Alors pour ceux qui connaissent pas le PICS c'est une certification un peu à l'image de ce qui peut être proposé sur les certifications de langue. En fait ça vous donne un niveau en informatique et l'idée c'est que le PICS soit une certification où vous êtes en capacité de repasser tous les 2, 3, 4, 5 ans et de progresser. Il y a un niveau, il y a un nombre de PICS, il y a 8 niveaux dans la plupart des compétences et il y a une vraie volonté de d'apprendre le codage beaucoup plus tôt, et je pense que c'est intéressant, parce qu'il y a vraiment, comme le disait Fred, il y a des débouchés qui sont énormes, et le fait que dès le plus jeune âge, on habitue les jeunes à coder, à l'algorithmie, à tout ça, je pense que c'est un gros plus pour eux. Et j'espère que ça va continuer maintenant. Le problème, et c'est là où le discours de Fred m'intéresse beaucoup, c'est le côté pédagogique, parce que je pense qu'on a beaucoup d'enseignants qui n'ont pas les cartes en main et qui savent pas comment le faire passer. Et ça, c'est compliqué, parce que je voyais mon neveu, il était face à son ordi, des questions piques, et en fait, il n'y avait eu aucun encadrement derrière, et c'était très compliqué pour lui de réussir à savoir quoi faire, à savoir comment gérer les choses. Et je pense qu'on a de gros travail à faire là-dessus en France, le côté pédagogique.
Fred, j'ai toujours le témoignage de Esteban en tête. Il est vraiment étonnant, ce garçon.
Bah, il est étonnant, mais ils sont tous étonnants. Hein. C'est vrai que tous, ils ont des profils atypiques. Tu peux croiser à Saint-Plon une auxiliaire de puériculture qui a arrêté son taf pour faire du code. Une commerciale qui faisait des macros sur Excel et qui s'est dit, en fait, les macros, c'est un peu du code. Donc, pourquoi je ferais pas du code ? Des décrocheurs scolaires... auquel on avait presque fini de convaincre qu'ils ne servaient à rien et qu'ils n'avaient rien de bon en eux. Enfin, tu peux trouver vraiment des gens différents, mais quand tu t'intéresses à leurs histoires, je pense que ce n'est pas vrai qu'à Saint-Plon, hein, je pense que c'est vrai de tout le monde, mais ils ont effectivement un chemin de vie. Et c'est ça aussi qui rentre dans le code, c'est ce que disait la formatrice, quoi. Ils arrivent avec leur background, et lui, il a démonté des moteurs d'avion, il a servi dans des restos et il a fait des cocktails. Bah, dans sa manière de penser une app et de la coder, peut-être que ça va se sentir, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est super quand la pédagogie, ce que disait monsieur, vient révéler ça, plutôt que de se dire, bah, moi, je vais te mettre un cataplasme qui s'appelle Pix sur toi ou je sais pas quoi. En fait, notre travail d'éducateur et de pédagogue, c'est révéler les gens. C'est ce que disait je ne sais plus quel grec encore. L'éducation, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et en fait, t'allumes un feu, mais l'étincelle, elle vient de la personne, quoi. Et c'est ça qui est beau dans notre métier, je pense. Ouais.
Alors, pour tous ceux à qui ce rendez-vous d'aujourd'hui va donner des idées, c'est quoi la marche à suivre pour rejoindre Saint-Plon, pour participer à l'Apple Foundation Programme? Faut commencer par le début, hein.
C'est mieux, effectivement, de toujours commencer par le début. C'est pas une obligation. Là, ils ont fait un profil assez linéaire à faire l'AFP, puis après l'Extended, puis après l'Advance. Mais en fait, il peut y avoir des fast tracks, hein. Ça dépend vraiment des gens. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces formations, elles ont lieu pas que à Montreuil ou à Paris, hein. Elles ont lieu dans 5 villes en France. Donc, c'est pas un truc réservé, là encore, comme d'hab, aux Franciliens, aux Parisiens.
Précise-nous.
Eh ben, c'est Lille, Toulouse, Lyon et Marseille. Voilà. Et donc voilà, elles ouvrent toutes en même temps les formations. Donc il faut aller sur saintplon.co, qui est notre site internet, et s'inscrire à une session d'information. Et toutes les formations ouvrent en même temps dans les mêmes villes. Donc comme ça, il y a 6 sessions par an dans chaque ville. Donc c'est énorme, hein. On ne se rend pas compte, mais avec à chaque fois une vingtaine d'apprenants. Donc ça fait, on a formé presque 2000 personnes depuis le début du partenariat avec Apple. Donc même si tu rates un slot, en fait, quelques semaines après, il y en a un autre. Donc voilà, c'est pas genre si t'as raté le truc de septembre, t'es obligé d'attendre l'année d'après, tu vois. Donc ça, c'est vrai que t'es sympa aussi. Donc voilà, simplement.co, t'inscris à une réunion, tu poses toutes les questions que tu veux. Et puis le seul impératif, c'est être motivé et être demandeur d'emploi, c'est tout.
C'est tout. Donc si ça vous tente, si... ce podcast révèle une vocation, n'hésitez pas, vous voyez qu'il n'y a aucune raison de ne pas tenter, de ne pas y aller. D'autres avant vous ont déjà essayé. C'est un partenariat avec Apple qui est signé pour combien de temps, Fred?
C'est signé pour 2 ans, mais chaque année on rediscute tout. Donc c'est assez typique des relations avec Apple. C'est-à-dire qu'il y a un engagement dans la durée pour
à la hausse ou à la baisse?
C'est souvent et exclusivement à la hausse pour l'instant, parce qu'ils sont contents et parce qu'on se défonce pour qu'ils soient contents. Et puis parce que c'est vraiment à quatre mains, hein. C'est-à-dire qu'on fait tous nos meilleurs efforts. Donc voilà, c'est par slot de 2 ans et on renégocie tout sur la base des résultats à chaque fois. Est-ce qu'on ouvre une autre ville ou pas? Donc Apple est très prudent, donc ils scalent, mais ils y vont doucement. Là où moi j'aurais pris, on va ouvrir des formations partout dans le monde, ça va être génial. Eux, ils sont sur la qualité en fait, pas sur la quantité. Mais par contre, voilà, ça augmente tous les ans, quoi. Donc c'est super.
Parce que tu le disais, vous êtes présent aussi à l'étranger. qu'est-ce qui empêcherait que vous élargissiez, que vous proposiez ces formations, notamment au Maroc, je crois, où vous êtes présent, ou en Afrique?
C'est vraiment, ça dépend de la stratégie d'Apple. C'est un programme qui n'est pas déployé dans tous les pays. Il y a des pays qui sont prioritaires. Donc la France était un pays prioritaire. Donc on est en train de discuter effectivement avec les équipes Apple pour voir dans quel pays ça pourrait faire sens. Et forcément, ce qu'ils nous ont demandé, c'est dans quel pays est-ce que vous êtes fort sur vos bases et où on aura une bonne qualité. Est-ce que ça match avec les pays qui sont prioritaires pour Apple en termes de
niveau? C'est quoi la réponse de Simplon?
La réponse, c'est Belgique, Espagne, Maroc. Ça, c'est des pays où on sait que Apple est fort et présent et a envie de se déployer. Mais on était, par exemple, présent en Inde. Et en Inde, ça avait déclenché une interrogation parce qu'en Inde, Apple, ils sont ultra minoritaires pour l'instant, même s'ils ont déplacé des usines là-bas. Mais en termes de marché, c'est vrai que c'est un marché qui n'est pas iPhone pour l'instant. Mais justement, ça pourrait être une bonne raison. Mais là, ils ont trouvé que c'était un peu rock'n'roll parce que c'est vraiment une autre planète, l'Inde, et peut-être que les contrôles de qualité sont moins faciles à exercer à 8 ou 10 heures d'avion avec le décalage horaire. On va rester en Europe ou au Moyen-Orient ou en Afrique, je pense.
Bon, il y a trois programmes. Est-ce qu'il y en a d'autres en préparation? Est-ce que tu as d'autres envies dans l'univers Apple, iOS, Mac, réalité virtuelle augmentée, étendue?
Oui, dans les envies, c'est jamais ce qui manque à Simplon, et Apple en a pas mal aussi. Donc il faut plutôt faire converger les envies. Et ce qui pourrait converger, ce serait de faire quelque chose sur le handicap. Parce que vous le savez ici mieux que personne, les produits Apple, ils sont très très bien foutus sur la partie accessibilité numérique. Il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont fans des produits Apple, et pour de très bonnes raisons. Et il y a aussi des apps sur le store qui sont dédiées aux personnes en situation de handicap. Et on avait envie de faire un programme spécial pour des personnes en situation de handicap et ou sur des apps et des projets qui vont bénéficier aux personnes en situation de handicap. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire. Ça discute un peu là-dessus. Et puis après, effectivement, s'il y a des choses qui se passent sur la VR ou sur le métavers, je pense que nous, ça nous intéressera de travailler avec Apple. Mais pour l'instant, tout ça est complètement top secret.
Je te passe la main, Fabrice, mais d'autant plus que vous venez de lancer une formation en partenariat avec Meta.
Ouais, ça c'était pas forcément bon pour notre dossier avec Apple, mais...
C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on se rappelle de l'interview de Greg Jovzia, notamment, qui avait dit « Metaverse, c'est un mot que je ne prononcerai jamais, donc il va falloir marcher sur des œufs, là. »
Ouais, non, mais en fait, j'ai dit ça
en plaisantant.
Mais
c'est quoi l'idée avec Facebook Meta,
C'est vraiment, là encore, sur les métiers du métavers, mais qui sont plutôt les métiers de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, il y a déjà énormément de postes non pourvus. Donc des développeurs Unity en 3D temps réel, les techniciens pour gérer des flottes de casques, tout ça, c'est vraiment, il y a des offres sur Pôle emploi qui sont non pourvues et on a des centaines. Et donc on a monté effectivement des formations pour alimenter l'écosystème en compétant pour pouvoir exercer ces métiers et amener un peu de diversité, parce que là aussi, ça manque un peu de meufs, ça manque un peu de diversité dans ce monde de la VR, un petit peu.
Alors, j'ai l'impression que depuis que vous avez eu Apple, Frédéric Bardot, tout le monde vous veut. Donc, Meta est arrivé. Il y a eu Microsoft aussi il y a quelques jours. C'est quoi l'idée avec Microsoft?
Microsoft, c'est un vieux partenariat qui datait d'avant Apple. On avait commencé à faire du coding à l'école et là, on fait des choses sur l'IA, le cloud et la cyber. Donc, c'est des écoles Microsoft by Simplon. Donc, on a formé plus de 1000 personnes sur l'IA. Donc, c'est vraiment un gros partenariat. Et donc, il semble qu'on soit pas trop mauvais à gérer les grosses machines de la tech américaine qui envoient du pâté et qui ont des écosystèmes technologiques puissants et qui ont besoin de compétences et de gens et qui sont engagés sur les questions de diversité, parce que le trait commun de ces boîtes-là quand même, c'est qu'elles ne font pas que parler de diversité, elles mettent de l'argent sur la table pour qu'il y ait des chômeurs qui trouvent du taf sur leur techno. Donc il y a bien sûr une arrière-pensée business, mais vraiment il y a des engagements sincères sur la partie diversité, féminisation, et ça c'est inclusion, et ça c'est top, parce que ça nous on le voit vraiment au quotidien, c'est pas du fake du tout, c'est vraiment du sonnant, du trébuchant et de l'investissement en temps homme et des ressources et des équipes, c'est top quoi.
Gilles?
Oui, on a parlé de VR, etc., et surtout d'iOS. Qu'est-ce qu'il en est du développement Mac? Parce que là, il y a les outils sont là depuis 30 ans, 40 ans. Et puis, il y a aussi un besoin. Est-ce qu'il y a une formation et...
Alors non, je crois pas. Après, moi, je suis pas un développeur. Donc là, vous allez rentrer dans des domaines techniques où mon principe de péteur et ma zone d'incompétence va arriver assez rapidement. Pour le coup, je pense qu'ils utilisent la totalité des outils qui sont disponibles, de Xcode à SwiftUI et puis à... après sur du développement spécifique desktop Mac, ça j'avoue que voilà, j'ai pas de réponse précise là-dessus. Je sais que les apps doivent s'afficher normalement correctement quel que soit le device, mais après s'il y a des choses qui sont spécifiques et natives au développement sur Mac, voilà, je vous en savais plus que moi, mais il faudrait demander à ma formatrice ou à mes équipes pédagogiques. Ouais. En tout cas, j'ai pas de secret là-dessus. Pas d'annonce. J'ai un scoop mais pour iWeek, mais c'est pas celui-là.
Ah, bah on le prend.
C'est lequel?
Ils vont me tuer à Apple, hein, mais moi, j'ai un coup de cœur et pour me faire pardonner la difficulté à mettre en place cette interview. Non, ce qui serait super, hein, par exemple, ce serait que Apple embauche des gens qui auraient été formés par Simplon. Ça, ce serait un scoop génial. Peut-être qu'ils vont prendre des alternants du programme Extended. Ça, ce serait génial.
C'est en bonne voie.
Ouais, franchement, ouais.
Ce serait la reconnaissance.
En très bonne voie.
Il y a trois qui sont en très bonne voie d'entrer chez Apple.
Ouais. T'imagines, formidable. Les films très rares et les tests techniques et tout ça, ils ne font pas de l'humanitaire. Hein. Si tu rentres dans les équipes de développeurs d'Apple, c'est que tu as le niveau. Ce n'est pas pour faire plaisir. Ou pour, hein. Donc, ce serait super. Mais effectivement, c'est bien, bien engagé.
Et trois qui ont fait la totalité du parcours dans l'Advanced.
Ouais.
Ben, on leur souhaite. C'est tout ce qu'on leur souhaite.
Et encore plus maintenant, parce qu'on sait les difficultés que traversent les grandes entreprises de la tech aujourd'hui. Il y en a qui débauchent beaucoup. Apple a plutôt annoncé faire un gel des embauches. Justement, pas forcément dans le développement, parce qu'il y en a vraiment besoin. Cela dit, ça veut dire que l'environnement est pas très bon pour se faire embaucher par Apple ou se faire approcher ou pour essayer de mettre un pied dans la porte. Donc, je trouve que c'est une très belle démonstration d'abord du partenariat que Simplon a avec Apple et puis donc de la qualité de la formation donnée parce que Apple regarde ça donc. Depuis le début, hein, ce que dit Fred, c'est ce partenariat la volonté de faire, dans la pédagogie, et puis donc un petit pas supplémentaire, formidable, bravo, hein, félicitations, c'est magnifique.
Ouais, puis là aussi, c'est facile de parler de diversité et d'inclusion, mais embaucher des gens, avoir des tuteurs pour les faire monter en compétences, les prendre chez soi, etc., c'est quand même un peu différent, on va dire que tout le monde ne va pas jusque-là. Même dans les partenariats qu'on peut avoir avec des grosses entreprises, quoi.
Merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans eWeek, la semaine Apple.
Merci à vous.
On espère à bientôt.
Inch'Allah.
Hein, Inch'Allah, comme on dit au Maroc et ailleurs. Plein de succès encore pour Simplon. Transmets nos amitiés à tous ceux qui sont en formation que j'ai croisé il y a quelques semaines à Montreuil.
Mais ils écouteront ça avec plaisir. Je pense qu'ils écoutent déjà iWeek. Je pense qu'ils sont biberonnés par Apple.
On compte sur toi. On compte sur toi pour placarder le QR code partout.
Et mettre des étoiles et des commentaires. Comptez sur moi.
Avec grand plaisir, Frédéric. Merci et à bientôt dans iWeek.
Merci, Fred.
La mise au point de Gilles Dounès. Gilles, tu voulais faire un petit pas de côté aujourd'hui et revenir sur les lunettes à réalité augmentée qui seraient dans le pipeline chez Apple, si on en croit Mark Gurman. Et tu veux t'intéresser plus particulièrement, je crois, au brevet qui a été publié par Apple la semaine dernière.
Oui, c'est bien ça, Benjamin. Vous en avez parlé avec François, si ma mémoire est bonne. Et tu te souviens peut-être que parmi les applications possibles pour ces fameuses lunettes. Bon, perso, j'avais souvent cité la correction oculaire pour les myopes ou les astigmates. Or, c'est bien ce vers quoi Apple s'est intéressé en proposant, dans un premier temps, d'ajouter une sorte de couche supplémentaire amovible, des verres supplémentaires correctifs à positionner par-dessus les lunettes à réalité virtuelle proprement dite.
Ouais. Un peu comme les verres solaires, c'est ça, hein, qui se clipsent par-dessus les lunettes de vue et qui étaient très à la mode, il faut dire, dans les années 60, comme on a pu voir sur les photos de Jean-Luc Godard qui ont tourné au moment de sa disparition.
Oui, tu as l'œil, effectivement, précisément. Mais ça ne pouvait être qu'un pis-aller. Ou peut-être pour amuser la galerie, il y avait une nouvelle classe de produits qui est en train d'émerger et qu'on appelle les métamatériaux. Concrètement, il s'agit de manipuler la structure moléculaire de certains matériaux lors de leur fabrication grâce à des flux de laser croisés, de manière à leur faire adopter un comportement particulier. Par exemple, transmettre différemment la lumière ou certaines longueurs d'onde de celle-ci à travers des cristaux de verre transformés en avant ou en arrière, point focal de la rétine, et sans avoir besoin d'avoir des lentilles courbées aussi épaisses que des culs de bouteille au fur et à mesure que la myopie avance, par exemple.
Et ces métamatériaux, Gilles, ils ont déjà été utilisés ?
Ah oui, tu vas rire, par Samsung et la première version de son Galaxy Fold. C'était pour rendre la structure de l'écran beaucoup plus souple et pouvoir le plier.
La première ou la deuxième version ? Parce que la première, ça n'a pas été un succès. Hein.
Ah ouais, on a beaucoup rigolé à l'époque. Mais ils ont fait des progrès entre-temps. Et surtout, il s'agit d'un secteur extrêmement prometteur, dont les applications sont potentiellement illimitées, comme des surfaces potentiellement invisibles au radar, grâce à l'absorption de certaines fréquences électromagnétiques, ou au contraire, sélectionner certaines dans d'autres structures, comme des cristaux photoniques, qui vont permettre potentiellement de créer des antennes textiles intégrées à des vêtements, par exemple. Et c'est un secteur qui est promis à une croissance de 15% par an jusqu'en 2030. On n'a vraisemblablement pas fini d'en entendre parler, et potentiellement dans les produits Apple.
Waouh, bah disons, ça donne encore plus envie que ces lunettes arrivent, parce que ça a l'air assez étonnant quand même. Et tes lunettes, François, tu les manipules là, mais elles sont normales, t'as pas de métamatériaux.
Hélas, oui.
Hein ?
Tim me les a pas envoyées encore, mais je compte sur lui. Tim, si tu m'écoutes, j'en ai bien
besoin. On peut pas avoir une Tesla et des lunettes avec des métamatériaux, c'est pas possible. Plus tard, ton tour viendra.
Non, t'y es pas, il a signé un accord, un NDA, il peut pas en parler en fait.
Ah, c'est pour ça. Petit cachotier. Nos coups de cœur, nos cartons jaune-rouge de la semaine. C'est pas du foot, hein, c'est bien l'univers Apple dont on parle. François, on commence avec toi ?
Ah, juste histoire de te faire, tu me chambres sur ma Tesla, donc moi mon petit coup de cœur, c'est de pouvoir quand il fait très froid, quand c'est gelé dehors, de pouvoir prendre mon téléphone, de lancer mon application Tesla et de demander à ma voiture de se dégivrer toute seule comme une grande, et d'avoir juste à ouvrir la portière et à s'asseoir sur le siège chauffant à 19 degrés, parce que je vous rappelle que c'est la fin de l'abondance et qu'on chauffe pas au-delà de 19 degrés. Et voilà, rien que pour ça, c'est hyper confortable. Je ne regrette pas juste
elle
pour ça.
Elle est froide, donc à 19.
Bah, c'est le problème des cols roulés, ça ne chauffe qu'en haut.
Bref, non, c'est un petit clin d'œil. C'est quand même, voilà, ça a des côtés super sympas. Et ce que j'aime bien avec cette voiture, c'est qu'il y a des mises à jour régulièrement. Il y a des petites nouvelles fonctionnalités qui sont implémentées. Je trouve ça... Je répète ma grosse frustration qu'Apple n'ait pas racheté Tesla à une époque, parce que là, voilà, j'aurais plaisir à rouler dans une Tesla avec un logo Apple devant, et je pense qu'il y aurait vraiment eu moyen de faire des convergences beaucoup plus intelligentes que ce qu'on peut voir par exemple en ce moment avec Twitter. Bref, voilà, c'était mon petit coup de cœur de la semaine.
Bon, t'auras peut-être CarPlay un jour dans ta Tesla. En attendant, si jamais on te coupe le chauffage, tu pourras toujours dormir dans ta voiture.
Ouais, bon, après il faudra juste qu'elle ait de la batterie, quoi, c'est tout. Mais théoriquement, avec la prochaine mise à jour, j'aurai Apple Music dans ma Tesla, et ça, déjà, ce serait chouette.
Peut-être.
C'est évoqué.
Fabrice, coup de cœur, coup de gueule, carton ?
Coup de cœur, le coup de gueule, on va le réserver à nos contributeurs Patreon. On va en parler dans le bonus juste après. Non, coup de cœur pour le test d'appareils photo des smartphones organisé tous les ans par MKBHD, Marques Brownlee, YouTuber bien connu, qui fait ça tous les ans, qui met entre une quinzaine de smartphones face à face, et il fait voter, il présente les photos en ligne et il fait voter. Mais alors, la chaîne, parce qu'il est plus, ça fait bien longtemps qu'il est plus tout seul, hein, et ils ont organisé quelque chose d'assez sympa, c'est-à-dire qu'avant il postait les photos sur Twitter et sur Instagram. Et puis il faisait voter au fur et à mesure des publications en fonction des photos qui restaient. Et là, ils ont mis en place un site web complet pour voter. Donc le principe est le suivant. C'était comme ça juste avant, mais maintenant c'est très sophistiqué. Donc on peut y aller. Donc c'est sur vote.mkbhd.com. Et ensuite, il y a une petite vidéo où il explique comment ça marche. Et ensuite, on peut commencer à voter. Donc, à chaque fois, il y a deux photos présentées. Donc, on vote à l'aveugle. On ne sait pas quel appareil a pris la photo. À chaque fois, il y a trois catégories de tests. Mmh. Et dans chaque catégorie, chaque photo est prise autant que possible à l'identique par chacun des appareils qu'on ne connaît pas quand on vote. On a à l'écran présenté deux photos, on choisit celle qu'on préfère et on passe au couple suivant et on choisit comme ça celle qu'on préfère à chaque fois. Et on peut voter autant de fois qu'on veut et au fur et à mesure du vote, c'est ça qui est très sophistiqué cette année. Il y a 16 smartphones, on s'arrête pas à voter 8 fois qui serait juste deux couples. Le système présente deux photos comme ça, je suppose, de manière aléatoire. Et on peut voter une centaine de fois si on veut pour affiner, parce que du coup ce sera jamais les deux mêmes qui vont être présentés côte à côte, parce que des fois on peut préférer une photo qui vient d'un appareil parce que celle d'en face est vraiment très nue, très mauvaise, ou on la considère très mauvaise, et donc tant qu'on veut, on continue à voter, et quand on décide qu'on a fini, on dit on veut obtenir les résultats, et puis on a là, tant que le vote est encore en cours, on obtient premier, deuxième, troisième, et juste une lettre qui correspond au smartphone que eux seuls connaissent. Et donc quand on a voté, on a son résultat, et il faut attendre maintenant encore quelques jours pour avoir le résultat du vote de tout le monde, pour savoir qui, parmi les centaines de milliers de gens qui vont voter, parce qu'ils ont 15 millions d'abonnés sur cette chaîne YouTube, voir quel est le smartphone qui va remporter la palme de la meilleure qualité photo, selon ce qu'on préfère. C'est un avis totalement subjectif, ce qu'on demande aux gens, mais à l'aveugle. Voilà, je trouve que c'est vraiment très bien fait, que ça vaut le coup d'aller voter aussi. C'est comme un jeu pour savoir si on aime le même smartphone que la majorité des gens. Et je trouve que ça c'est vraiment très bien fait cette année. Donc voilà, on peut se rendre sur vote.mkbhd.com pour participer au vote.
Et ça serait intéressant que tu nous donnes le résultat la semaine prochaine.
Je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine déjà, mais quand il y aura un résultat, effectivement, j'en reparlerai, ouais, tout à fait.
Merci à vous pour ces coups de cœur. Une parenthèse avant de nous quitter, puisque à l'instant, on apprend que les mises à jour de tous les OS viennent de sortir. Ça vaut aussi bien pour iOS 16.2, iPadOS, tvOS 16.2, macOS 13.1 et aussi du WatchOS 9.2 disponible donc pour tous dès maintenant. Juste un petit mot à propos d'iOS. 10 grandes nouveautés, c'est pas une si petite mise à jour que ça, avec notamment, Fabrice, cette protection avancée des données personnelles, sur laquelle on va revenir la semaine prochaine avec un tuto, mais c'est un élément assez important de la sécurisation de nos datas.
Oui, effectivement. Important, alors, pour bien comprendre, ça concerne les données stockées en ligne sur les serveurs d'Apple essentiellement. C'est-à-dire que pour la première fois, une grande partie des données qui sont stockées sur notre iPhone, lorsqu'on les synchronise via le service iCloud, elles seront aussi chiffrées sur les serveurs d'Apple, ce qui était déjà le cas, mais avec en plus le fait que cette fois-ci, Apple ne pourra pas y accéder non plus. Jusqu'à présent, par exemple, pour les e-messages, en cas de demande de la police d'accéder aux e-messages, si vous aviez utilisé le iCloud Backup, à la demande de la police, Apple pouvait donner les messages en cas d'une enquête, d'une ouverture d'une enquête. Et on se rappelle peut-être, ça avait été un problème entre Apple et le FBI il y a 5-6 ans pour la tuerie de San Bernardino. Apple aurait pu donner le contenu d'échange de celui qui a tiré à la demande du FBI. Ça s'est pas fait pour tout un tas de raisons, mais ça avait fait une polémique à l'époque. Donc voilà, donc c'est vraiment important, mais il va falloir qu'on y revienne effectivement parce que ça s'active. On va pouvoir le faire quand on aura la 16.2, à condition que tous les appareils dont on dispose connectés à ce même compte iCloud soient eux-mêmes mis à jour en 16.2. C'est pas si simple. Et puis il y a d'autres conditions. Donc c'est une vraie bonne, un bon point pour la sécurisation de nos données. Et on va y revenir aussi, mais je trouve qu'il y a un point très important à dire à tout le monde et que tout le monde en soit conscient. Si on fait le choix d'adopter cette nouvelle fonction de protection des données, ça veut dire que si jamais on perd son mot de passe, Apple ne pourra rien. Donc il faut, c'est vraiment important de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'Apple a pris son temps, parce que il reçoit forcément des dizaines de milliers de demandes par jour de gens. J'ai perdu mon mot de passe. Comment je fais pour récupérer mes photos? Parce que ça concerne donc les photos aussi. Donc ils ont pris quelques précautions qu'on détaillera la semaine prochaine. Mais faites vraiment attention avant d'y aller. Prenez vos précautions et pensez bien que si jamais il y a un problème, Apple ne vous aidera pas. Parce qu'elle ne pourra pas, c'est pas qu'elle veut pas, elle ne pourra pas. Donc c'est pas anodin, voilà.
On va y revenir dans les jours qui viennent, et évidemment la semaine prochaine, dans le prochain numéro d'iWeek, la semaine Apple. Parmi les nouvelles fonctions de cette 16.2, il y a la fonction karaoké d'Apple Music dont on a parlé dans la quotidienne, donc Sing, désormais accessible dans le monde entier. Vous avez l'application Freeform. On en a aussi parlé avec toi, François, il y a quelques jours. Il y a la personnalisation de l'écran toujours allumé. L'accès à AirDrop pour tous est désormais limité à 10 minutes, comme ça avait d'abord été le cas en Chine, vous vous en souvenez.
Il y a une fenêtre de 10 minutes qui s'ouvre et qui se referme, donc au bout de 10 minutes.
C'est ça.
Quand on l'active.
C'est ça, absolument. De nouveaux widgets pour l'écran de déverrouillage. Ça tombe bien parce que la Coupe du Monde est quasiment finie, mais les live activities avec les scores sportifs arrivent. Le support de SharePlay dans le Game Center. Des nouveautés pour l'appli Météo. Et puis, une nouveauté qui te concerne, François, c'est la nouvelle architecture de l'appli Maison, dont on aura aussi, j'imagine, l'occasion de parler.
Oui, parce qu'il y a un jour où je vais réussir à remettre de la domotique à la maison.
Bah oui, maintenant que tu as du réseau, c'est une très très bonne nouvelle. C'est la fin de ce 116e numéro d'iWeek, la semaine Apple, que vous retrouverez également en vidéo, en avant-première et sans pub sur patreon.com/iWeek. Tout comme notre bonus hebdo exclusif consacré cette semaine à la mésaventure de François avec l'achat d'un MacBook Pro 14 pouces sur l'Apple Store reconditionné. François, tu vas nous raconter tes déboires et aussi peut-être nous donner des conseils par rapport à ce magasin qui a longtemps été assez exemplaire en termes de qualité. Ce n'est peut-être plus forcément le cas. L'épisode vidéo d'iWeek, la semaine Apple, le 116, je vous rappelle qu'il arrive dans un deuxième temps le week-end sur YouTube, si vraiment vous y tenez. Merci Frédéric Bardot d'avoir passé cette heure avec nous. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir. Une pensée pour l'absent du jour, Élie, qui papicite aujourd'hui. On le retrouvera la semaine prochaine avec un immense plaisir. Et je sais qu'à toi aussi, Élie, iWeek te manque. Ça fait quand même 2 semaines de suite et ça ne t'est jamais arrivé, entre parenthèses. À mercredi prochain, on sera le 21 décembre 2022 pour l'épisode 117, les amis. Merci d'avoir été là aujourd'hui, comme si souvent. Salut Gilles.
Salut Benjamin. Au revoir à tous.
Ton micro est formidable. Je suis très heureux de cet investissement rendu possible par nos soutiens Patreon que on remercie encore une fois. Il te plaît ?
Oui, énormément. Je crois que je vais l'utiliser la semaine prochaine, si tu permets.
Ah, avec grand plaisir. On compte sur toi. Salut François.
Salut Benji, très heureux d'avoir pu partager cette heure 40 et quelques avec vous et à très bientôt, j'espère.
Salut Fabrice.
Salut mon capitaine, merci d'avoir organisé cette interview avec Frédéric Bardot de Simplon. Moi j'ai appris plein de trucs et j'espère que nos auditeurs aussi.
On va rappeler le site sur lequel on peut te contacter.
Moi c'est pro-fusion-conseil.fr.
Voilà, toi le mentor en technologie. D'ici la semaine prochaine, on vous conseille évidemment de ne pas manquer un seul numéro de la quotidienne iWeek qui fête ce mercredi son 300e épisode. Je suis très très heureux, mes amis, qu'on atteigne cette barre symbolique. Et puis ça continue puisque le 301e, ce sera pour ce jeudi. La quotidienne iWeek, c'est du lundi au vendredi, 5 à 10 minutes par jour avec les 5 infos essentielles dans l'écosystème Apple. Abonnez-vous, suivez cette quotidienne iWeek, podcast indépendant. Compagnon indissociable de la semaine Apple. Patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté iWeek et nous soutenir. On a besoin de votre aide pour financer le coût de production de ces deux podcasts qui sont gratuits, on vous le rappelle. Twitter @iWeekNews, Instagram @iWeek.news. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de parler d'iWeek autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. On a besoin de vous. On compte sur vous. Bonne soirée. Très belle semaine et à mercredi prochain. Salut à tous. Bye bye.
Ciao.
Bye bye. Bye bye.